franceinter.fr.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire de sang-froid ?
Truman Capote.
J'avais réfléchi à différents sujets. Mais certainement, l'idée de parler d'un fait divers ne m'avait pas traversé l'esprit. Mais un jour, j'étais simplement en train de lire le New York Times.
Ça peut pas faire de mal.
Et dans une section reculée du journal, eh bien, je suis tombé sur ce petit article qui ne faisait pas plus de 3 ou 4 paragraphes. Tout à coup, l'idée m'est venue, un crime. On pourrait suivre le crime du début à la fin. Cela pourrait être une bonne matière pour mener cette petite expérience que j'avais envie de mener.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Jusqu'à un matin de la mi-novembre 1959, peu d'Américains avaient jamais entendu parler de Holcombe. Comme les eaux de la rivière, comme les automobilistes sur la grande route et comme les trains jaunes qui filent à la vitesse de l'éclair sur les rails de Santa Fe, la tragédie sous forme d'événements exceptionnels ne s'était jamais arrêtée là. Les habitants du village au nombre de 270 étaient satisfaits qu'il en fût ainsi, tout à fait heureux d'exister à l'intérieur d'une vie ordinaire. Travailler, chasser, regarder la télé, assister aux fêtes scolaires, aux répétitions du chœur. Mais aux petites heures de ce matin de novembre, un dimanche, certains bruits étrangers empiétèrent sur les rumeurs nocturnes habituelles de Holcombe, sur l'hystérie perçante des coyotes, le frottement sec des graines d'Egbalium dans leur course précipitée et la plainte affolée décroissante des sifflets de locomotives. À ce moment-là, dans Holcombe qui sommeillait, pas une âme n'entendit les 4 coups de fusil qui, tout compte fait, mirent un terme à 6 vies humaines. Ainsi commence l'un des plus grands succès d'édition du XXe siècle, « De sang-froid », le livre qui marqua en 1966 la gloire mais aussi la déchéance de son auteur, Truman Capote. À cette époque, Capote a publié un roman très remarqué, « Breakfast at Tiffany's ». Il a 42 ans, il est mondialement connu et cherche un sujet pour son prochain ouvrage. La chance lui sourit lorsqu'il tombe un matin de novembre 59 sur un article du New York Times consacré au quadruple meurtre de la famille Clutter. Un couple et leurs 2 enfants ont été sauvagement assassinés chez eux dans une petite ville du Kansas par 2 malfrats en quête d'argent. Derrière ce sombre fait divers se cache pour le romancier une formidable occasion d'analyser le genre humain. Alors il part enquêter sur place, discute avec des témoins, épluche le dossier de police et rencontre même les 2 criminels inculpés. Il va notamment développer une étrange amitié avec l'un d'eux, Perry Smith. Rapidement, cette relation le mine, de même que cette sordide affaire qui va le hanter jusqu'à sa mort en 1984. Ce soir, je vous propose donc d'ouvrir ce monument de la littérature américaine et de partir là-bas, sur les plaines arides de l'ouest du Kansas, tout près de la frontière du Colorado. Dans les premières pages de son livre, Truman Capote dresse le portrait de la famille Clutter, une famille sans histoire vivant dans une ferme bordée de granges et d'arbres. Le couple Clutter a 4 enfants, 3 filles, Evina, Beverly et Nancy, et un fils, Kenyon. Les 2 aînés ont récemment pris leur envol et n'habitent plus à Holcombe. Seule la jolie Nancy, 17 ans, et son frère Kenyon, 15 ans, vivent avec leurs parents. Le père, Herbert, est un homme autoritaire mais sensible. Il gère les affaires de la propriété. La mère, Bonnie, a la santé fragile et garde souvent le lit. Truman Capote nous livre ici un aperçu de leur quotidien. Il se fonde pour cela sur le journal intime de Nancy que la police lui a confié pour l'écriture de son roman.
Nancy ! Lança Kenyon. Suzanne au téléphone ! Grand Dieu, Kenyon, je suis pas sourde !
Comme toujours, Kenyon avait le diable au corps. Ses cris retentissaient dans l'escalier.
Nancy, téléphone !
Pieds nus en pyjama, Nancy dévala les marches. C'était une jolie fille, mince et agile comme un garçon, et ce qu'elle avait de plus joli était ses cheveux châtains, brillants et coupés courts, et son teint adouci par le savon, encore légèrement marqué de taches de rousseur et d'un rose bruni par le soleil de l'été précédent. Mais c'était ses yeux, bien séparés, sombrement translucides, qui la rendaient immédiatement sympathique, et qui annonçaient tout de suite son manque de méfiance, sa bonté réfléchie et pourtant si aisément déclenchée. Allô ? Dis-moi, fit Suzanne qui commençait invariablement une séance téléphonique par ce commandement, pourquoi tu flirtais avec Jerry Roth ? Hier soir, grand Dieu, je flirtais pas. Tu veux dire parce qu'on se tenait la main ? Il est venu dans les coulisses durant la représentation. Et j'étais si nerveuse, alors il m'a tenu la main, pour me donner du courage.
Très gentil. Et ensuite ?
Bobby m'a emmené voir le film d'épouvante, et on s'est tenu les mains.
Ça t'a fait peur ?
Pas Bobby, le film. Lui, pas. Il a ri tout le temps. Mais tu me connais. Ouh, et je tombe en bas de mon siège.
Qu'est-ce que tu manges ?
Rien.
Je sais. Tes ongles, dit Suzanne en devinant correctement. Quelque chose qui va pas ?
Non.
Nancy, c'est moi.
Eh bien, c'est papa. Il a été d'une humeur affreuse ces dernières semaines, du moins à mon égard. Et quand je suis rentrée hier, il a recommencé ça.
Ça n'avait pas besoin d'amplification. C'était un sujet que les deux amies avaient discuté à fond et sur lequel elles étaient d'accord. Suzanne, résumant le problème du point de vue de Nancy, avait dit un jour « Tu aimes Bobby maintenant et tu as besoin de lui ». Mais dans le fond, Bobby lui-même sait que c'est sans avenir. Plus tard, quand nous irons à Manhattan, tout semblera un monde nouveau. Les deux jeunes filles avaient l'intention de s'inscrire à la faculté des beaux-arts et de partager la même chambre. « Quand je commence à dire quelque chose, continua Nancy, papa me regarde comme si je l'aimais pas. Ou comme si je l'aimais moins. Je veux simplement être sa fille et faire ce qu'il désire. Et ta mère ? Maman ? Nous sommes tous si heureux à propos de maman. Tu as appris la merveilleuse nouvelle ? Écoute. » Et elle hésita, comme si elle rassemblait tout son courage pour faire une remarque révoltante. « Comment se fait-il que je sente constamment une odeur de fumée ?» dit Nancy. « Honnêtement, je crois que je deviens folle. » Avant que Suzanne puisse demander à Nancy ce qu'il se passait, celle-ci l'interrompit. « Pardonne-moi, Suzanne, il faut que je te quitte. Mrs. Katz est ici. » Parallèlement aux membres de la famille Clutter, deux autres personnages plus inquiétants entrent en scène. Il s'agit de Perry Smith et de Richard Aycock, alias Dick, les deux tueurs. Truman Capote, dans un souci de vraisemblance, n'a pas changé leur nom. Le lecteur comprend vite qu'ils se connaissaient bien, qu'ils ont tous les deux fait de la prison pour vol et corruption, et qu'ils ont un projet précis en tête.
L'État du Kansas te souhaite la bienvenue. Tu es ici au cœur de l'Amérique. Le pays du blé, du maïs, de la Bible et... du gaz naturel. Bien. Tu vois, ce plan n'est pas aussi lourd que ta carte, mais c'est du concret, du solide, qui nous rapportera avant ce soir 10 000 dollars en billets de banque. À 600 km d'ici, vers l'ouest, le père Clutter a une grosse propriété. Ça, c'est le plan des lieux. T'as tous les détails. Dans le bureau du maître se trouve un joli petit coffre-fort. Et dans ce joli coffre-fort, 10 000 dollars, peut-être plus.
Est-ce que tu l'as vu ?
Le coffre. Ah oui et non, c'est-à-dire, quand t'es sorti de cabane, il y a un nouveau qui a emménagé dans la cellule. Floyd Wells. Il avait 5 ans à tirer pour cambriolage. Il avait bossé pour Clutter dans le temps et il a vu le coffre.
Et c'est ça que tu appelles du concret.
Crois-moi, Coco, c'est dans la poche. Pas de témoins. On éclaboussera les murs avec leur cervelle.
Au milieu de l'après-midi, la Chevrolet noire avait atteint Emporia, Kansas, ville importante, presque un grand centre. Et un endroit sûr, c'est ce qu'avaient décidé les occupants de la voiture pour faire quelques courses. Ils se garèrent dans une rue latérale, puis ils se baladèrent en attendant qu'une boutique suffisamment achalandée se présente. Le premier achat fut une paire de gants de caoutchouc. C'était pour Perry qui, à l'encontre de Dick, avait oublié d'apporter de vieux gants. Ils s'approchèrent d'un comptoir où étaient étalés des bas de femmes. Après un moment d'argumentation indécise, Perry dit « Moi, je suis pour. » Dick était contre. « Et mon œil ?» Ces bas-là sont trop pâles pour cacher ça. Mademoiselle, dit Perry, attirant l'attention d'une vendeuse, avez-vous des bas noirs ? Sur sa réponse négative, il suggéra d'essayer dans un autre magasin. Le noir, c'est sans aucun risque. Mais la décision de Dick était prise. Peu importe la couleur des bas, ce n'était pas nécessaire. Un embarras, une dépense inutile, et après tout, toute personne qu'il rencontrerait ne survivrait pas pour venir témoigner. Pas de témoin, rappela-t-il à Perry, pour ce qui sembla à ce dernier la millionième fois. Ça lui restait sur le cœur la façon que Dick avait de déclamer ces trois mots comme s'ils étaient la solution de tous les problèmes. Il était stupide de refuser d'admettre qu'il pourrait y avoir un témoin qu'il n'aurait pas vu. L'imprévisible peut se produire. Il arrive que les choses changent, dit-il. Mais Dick, souriant avec vanité, puérilement, n'était pas d'accord. Ne fais pas de mauvais sang, il peut rien se passer. Non, parce que le plan était le sien et parfaitement combiné. Du premier bruit de pas au silence final.
Ensuite, ils s'occupèrent de la corde. Perry étudia l'assortiment, le vérifia. Comme il avait été dans la marine marchande autrefois, il connaissait la corde et il était adroit en matière de nœuds. Il choisit une corde blanche en nylon aussi forte qu'un fil de fer et pas tellement plus grosse. Ils discutèrent du nombre de mètres dont ils avaient besoin. La question irritait Dick car elle faisait partie d'une difficulté plus grande et il ne pouvait pas être certain de la réponse en dépit de la prétendue perfection de l'ensemble de son plan. En fin de compte, il dit « Nom de Dieu, comme veux-tu que je le sache ?»« Tu ferais sacrément mieux de le savoir, » dit Perry. Dick fit un effort. « Il y a lui, elle, le môme et la fille, et peut-être les deux autres, mais c'est samedi. Ils peuvent avoir des invités. Mettons que ça fait 8, ou même 12. » Il n'y a qu'une chose certaine, il faut qu'ils y passent tous. Il me semble que ça en fait beaucoup. C'est-y pas ce que je t'ai promis, Coco ? Leur foutre, leur mettre tout plein de cheveux sur les murs. Perry haussa les épaules. Alors vaut peut-être mieux acheter tout le rouleau. Il y en avait 100 mètres. Assez pour 12, en effet.
Pour moi, c'est un vagabond qui a fait le coup.
Monsieur Dewey, quand pourrons-nous visiter la maison ?
Pourquoi a-t-on assassiné les hommes dans le sous-sol ?
Je vais exposer des faits. Pas des théories.
Le drame a eu lieu. La famille Clutter a été tuée par Perry et Dick.
Tous les quatre ont été apparemment tués avec la même arme à feu. Un fusil de chasse calibre 12. Tous les quatre ont été ligotés avec la même corde de nylon que l'on trouve dans la plupart des quincailleries.
Mais le romancier a choisi de ne pas dire à son lecteur comment cela s'est passé, du moins pour l'instant. Capote préfère suivre les deux meurtriers dans leur cavale. Ils ont repris la route, direction le Mexique, où ils pensaient se faire oublier un peu. Mais après quelque temps, ils décident de revenir aux États-Unis pour se faire un peu d'argent. Les voici sur la route 66, à pied, avec leur unique bagage, harassés par la fatigue et la faim. Ils font du stop sous le soleil brûlant. Il était midi au cœur du désert de Mojave. Assis sur une valise de paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord d'une grande route toute noire, la route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé comme si l'intensité de son regard pouvait forcer des automobilistes à se montrer. Il en passait très peu, et nul d'entre eux ne s'arrêtait pour les autostoppeurs. Un routier qui se dirigeait vers Needles, Californie, leur avait offert de monter, mais Dick avait refusé. Ce n'était pas le genre de topo que lui et Perry avaient en tête. Ils attendaient un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de l'argent dans son porte-billet. Un étranger a volé, étranglé et abandonné dans le désert. Dick entendit les faibles vibrations d'une voiture qui s'approchait mais qui n'était pas encore visible. Perry les entendit lui aussi. Il mit l'harmonica dans sa poche et ramassa sa valise de paille. Cette dernière, leur unique bagage, était pleine à craquer et cédait sous le poids des souvenirs de Perry, auxquels s'ajoutaient 3 chemises, 5 paires de chaussettes blanches, une boîte d'aspirine, une bouteille de tequila, des ciseaux, un rasoir de sûreté et une lime à ongles. Puis il rejoignit Dick sur le bord de la route. Ils regardèrent attentivement. La voiture apparut et grandit jusqu'à devenir une Dodge bleue avec un seul passager, un homme chauve et maigre. Parfait. Dick leva la main et fit signe. La Dodge ralentit et Dick fit à l'homme un sourire somptueux. La voiture s'arrêta presque, mais pas tout à fait, et le conducteur se pencha par la portière et les examina des pieds à la tête. L'impression qu'ils firent fut évidemment alarmante. Après un voyage de 50 heures en autocar de Mexico à Barstow, Californie, et une demi-journée de route dans le Mojave, les deux autostoppeurs étaient des personnages hirsutes et couverts de poussière. La voiture fit un bond en avant et s'éloigna à toute vitesse. Dick se mit les mains en porte-voix et lança « T'es un foutu vénard !» Puis il éclata de rire et mit la valise sur son épaule. Rien ne pouvait vraiment le mettre en colère, parce qu'il était, comme il le rappela par la suite, trop heureux d'être de retour dans ces bons vieux États-Unis. De toute façon, il viendrait un autre homme dans une autre voiture. Perry sortit son harmonica et joua les premières mesures de ce qui était devenu leur musique de marche. La chanson était une des préférées de Perry et il en avait appris à Dick les 5 couplets. Ils avancèrent côte à côte et au pas sur la grande route en chantant « Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Il foule aux pieds la récolte où se trouvent les raisins de la colère. » Et leurs voix jeunes et dures résonnaient dans le silence du désert.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Everything's fine.
us. There's nothing left to hold on to, but it's alright for tonight, my love. Everything's lost, there's no more bed to sleep into, but it's alright for tonight, my love. Yes, it's alright. What's left to win? There's so many ways to begin, but it's alright for tonight, my love. Who's left to trust? There's only you I'm in, my love. Against the streets and the skies above.
Cette nuit d'horreur, les rues de Garden City sont presque désertes à partir de 6 heures du soir. Jusqu'ici, aucun indice n'a permis aux enquêteurs d'orienter leurs recherches.
Toi et ton crétin de Floyd Wells avec son tuyau pourri. Bravo pour le joli coffre dans le mur. Du concret, du solide, $10,000, du tout cuit.
Floyd est un con, d'accord. Mais on a réussi notre coup à la perfection.
Trop imprudent et inattentif, Perry et Dick se sont finalement fait arrêter. Enfermés dans deux cellules différentes, n'ayant aucun moyen de communiquer, les deux complices se font interroger par les inspecteurs du KBI, le Kansas Bureau of Investigation, mais ne savent pas encore qu'ils sont sérieusement soupçonnés d'être les auteurs de la tuerie de Holcomb. Dick, par exemple, pense naïvement qu'on le retient pour une simple histoire de faux chèque. Et les détectives chargés de l'enquête, Nye et Church, en profitent pour le piéger. « Je connais les formalités, » dit Dick. « C'est pas la première fois qu'on m'interroge. »« Bien, monsieur Hickok. »« Dick. »« Dick. »« On veut vous parler de vos activités depuis votre libération conditionnelle. » À notre connaissance, vous avez fait au moins deux séries de chèques sans provision dans la région de Kansas City. J'en ai placé pas mal. Pourriez-vous nous donner une liste? Évidemment fier de son seul don authentique, une mémoire remarquable, le prisonnier récita les noms et adresses de 20 magasins, cafés et garages de Kansas City et il rappela fidèlement l'achat fait à chaque endroit et le montant du chèque qu'il avait refilé. Ça m'intrigue, Dick. Pourquoi ces gens acceptent-ils vos chèques? J'aimerais connaître votre secret. Le secret, c'est que les gens sont stupides. Très bien, Dick. Très drôle. Mais oublions cette histoire de chèques pour l'instant. Parlez-nous un peu de votre milieu familial. Le prisonnier raconta ses souvenirs. Un jour, alors qu'il avait 9 ou 10 ans, son père était tombé malade et la maladie avait duré plusieurs mois au cours desquels la famille avait vécu grâce à l'aide de l'église et de la charité des voisins. Autrement, on crevait de faim. À l'exception de cet épisode, son enfance a été normale. Elle est merveilleuse, ma mère. Papa est un brave type, lui aussi. Je peux dire qu'ils ont fait tout leur possible pour moi. Avant son 21e anniversaire, Hickok avait été garde-voie, chauffeur d'ambulance, peintre d'automobile et mécanicien dans un garage. Il avait aussi épousé une fille de 16 ans, Carole. Puis il essaya le jeu et il commença à falsifier des chèques et à expérimenter d'autres formes de vol. En 1958, il fut convaincu de cambriolage et condamné à 5 ans au pénitencier du Kansas. Mais à ce moment-là, Carole était partie et il avait pris pour épouse une autre fille de 16 ans. Vraiment dégueulasse. Elle et toute sa famille. Elle a obtenu le divorce pendant que j'étais en prison. Pas que je me plaigne. En août dernier, quand j'ai quitté les murs, j'estimais avoir toutes les chances de commencer une vie nouvelle. J'ai trouvé un boulot à Olat. Je vivais avec ma famille, je restais à la maison le soir. Ça allait comme sur des roulettes. Jusqu'au 20 novembre, dit Nye. Et Hickok ne sembla pas comprendre. Le jour où ça a cessé d'aller comme sur des roulettes, où vous avez commencé à faire des chèques sans provision, pourquoi ? Hickok poussa un soupir et dit « Il y a de quoi écrire un livre. » Puis, fumant une cigarette empruntée à Nye et gracieusement allumée par Church, il dit « Perry, mon pote Perry Smith, a été libéré sur parole au printemps. Plus tard, quand je suis sorti, il m'a envoyé une lettre. L'idée était de se rendre à Acapulco, acheter un bateau de pêche et le piloter nous-mêmes, prendre des touristes pour aller pêcher en haute mer. « Et ce bateau, comment aviez-vous l'intention de le payer ?» dit Nye. « J'y arrive, » dit Hickok. Vous voyez, Perry m'a écrit qu'il avait une sœur qui vivait à Fort Scott. Et elle avait pas mal de pognon pour lui, plusieurs milliers de dollars. Il a dit qu'il venait au Kansas pour toucher le fric. Vous alliez employer cet argent tous les deux pour acheter un bateau. Ouais, c'est ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Voici ce qui est arrivé. Perry s'est amené, je l'ai rencontré au terminus d'autocar de Kansas City. Quand ? Demanda Nye. Quel jour de la semaine ? Un jeudi. Et quand êtes-vous allé à Fort Scott ?
Samedi, répondit Dick.
Le 14 novembre donc, ajouta Nye. Un éclair de surprise passa dans les yeux de Hickok. On pouvait voir qu'il se demandait pourquoi il était si certain de la date. Et le détective se hâta d'ajouter, car il était trop tôt pour éveiller des soupçons, à quelle heure êtes-vous parti pour Fort Scott ?
Cet après-midi-là. On a fait quelques réparations à ma voiture et on a mangé un plat de chili au Westside Café.
Et la sœur de Perry vous attendait-elle ?
Non, parce que Perry avait perdu son adresse. Et elle n'avait pas le téléphone. Alors Perry s'est renseigné au bureau de poste. Ils ont dit qu'elle avait déménagé.
Et qu'avez-vous fait ensuite, renchérit Nye ?
On s'est promené, on a pris une bière et on s'est remis en route.
Alors il parla durant 1h25, et il mentionna des grandes routes et des hôtels, des motels, des fleuves, des petites villes et des grands centres, une litanie de noms qui s'entrelaçaient, Apache, El Paso, Corpus Christi, Saltillo, Acapulco, Dallas, Omaha, Stillwater, Needles, Miami, Miami et beaucoup, beaucoup d'autres. Et lorsqu'il eut fini, il demeura assis, les bras croisés, un sourire de contentement sur les lèvres, comme s'il s'attendait à être félicité pour l'humour, la clarté et la bonne foi du récit de ses voyages. Mais Nye dit soudainement « J'imagine que vous savez pourquoi on est ici ?» Hickok cessa de sourire et se redressa. « J'imagine que vous vous rendez compte qu'on ne serait pas venu jusqu'au Nevada seulement pour causer avec deux faussaires à la petite semaine. » Nye regarda fixement le prisonnier. Et il remarqua qu'un réseau de veines était apparu sur sa tempe gauche. « Est-ce qu'on aurait fait ça, Dick ?»«
Quoi ? » ?»«
Est-ce qu'on serait venu jusqu'ici pour parler de quelques chèques ?» Puis il dit « Dites-moi, Dick, vous avez déjà entendu parler des meurtres clotteurs ?» Sur quoi, écrivit-il par la suite dans un rapport officiel de l'interrogatoire, le suspect a visiblement eu une réaction intense. Il est devenu gris. Et a clignoté des yeux. Hickok dit doucement « Attendez un instant, je ne suis pas un sacré tueur. » La question posée, lui rappela Nye, était de savoir si vous aviez entendu parler des meurtres clotteurs. Un crime sadique, lâche et presque parfait. « Mais vous avez commis deux erreurs, Dick. L'une était que vous avez laissé un témoin vivant qui viendra déposer en cour, qui se présentera à la barre et qui racontera au jury comment Richard Hickok et Perry Smith ont ligoté, bâillonné et massacré 4 personnes sans défense. Le visage de Hickok rougit sous l'afflux du sang. Un témoin vivant, il peut pas y en avoir. Parce que vous pensiez vous êtes débarrassé de tout le monde? J'ai dit doucement, il y a personne qui peut me rattacher à un sacré meurtre. Des chèques, un petit vol, mais je suis pas un sacré tueur. Alors pourquoi nous avez-vous menti? Lui demanda Nye. Je vous ai raconté la sacrée vérité? Pas toujours. Par exemple, samedi après-midi, le 14 novembre, vous dites que vous êtes allé à Fort Scott et au bureau de poste pour obtenir l'adresse de la sœur de Perry Smith. Ouais, c'est ça. Nye se leva. Il vint se placer derrière la chaise de Hickok et posant les mains sur le dossier, il se pencha comme pour chuchoter dans l'oreille du prisonnier. Perry Smith n'a pas de sœur qui vit à Fort Scott, dit-il. Il n'en a jamais eu. Et il se trouve que le bureau de poste est fermé le samedi après-midi. Puis il dit « Réfléchissez, Dick. C'est tout pour maintenant. »
Maintenant, monsieur, dites-nous où est le coffre.
Mais quel coffre? Je ne possède pas de coffre.
Ce n'est que dans la troisième partie du roman que nous apprenons enfin ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit du 16 novembre dans la ferme des Clutters. C'est Perry qui passe aux aveux face à un autre inspecteur, Alvin Dewey. Cet homme a réellement existé, Truman Capote l'a rencontré et il le met en scène ici, atterré, à l'écoute du récit sordide de Perry. Perry revient alors sur la chronologie des faits lorsqu'ils sont arrivés sur le domaine en pleine nuit et qu'ils ont décidé de troubler le sommeil de ce foyer. Quand on est passé par Holcombe, c'est à peine si je m'en suis rendu compte, tellement c'était un petit patelin. On a traversé une voie ferrée. Soudain, Dick a dit « Ça y est, ça ne peut être que ça. » C'était l'entrée d'un chemin privé bordé d'arbres. On a ralenti et on a éteint les phares. On n'en avait pas besoin, à cause de la lune. Il n'y avait rien d'autre dans le ciel, pas un nuage, rien. Juste cette pleine lune. Dick a dit « Regarde-moi cette propriété, les granges, cette maison. Ne me dis pas que ce type n'est pas bourré de fric. » Mais je n'aimais pas la façon dont ça se présentait, l'atmosphère. En un sens, c'était trop impressionnant. On s'est garé dans l'ombre d'un arbre. Tandis qu'on était assis, là, une lumière s'est allumée. Et j'ai vraiment commencé à me faire du mauvais sang. J'ai dit à Dick de ne pas compter sur moi. S'il était décidé à mettre son plan à exécution, il faudrait qu'il le fasse seul. Il a mis la voiture en marche. On partait et j'ai pensé, Dieu soit loué. Mais je voyais bien qu'il se disait, ne dis pas que je monte un grand coup, on s'amène jusqu'ici, et à présent ce morveux a les jetons. Il y avait de l'alcool dans la voiture. On a pris un coup tous les deux et je lui ai dit, d'accord, Dick, je te suis. Alors on a fait demi-tour. On s'est garé, Dick a mis des gants, il portait le couteau et la lampe de poche, j'avais le fusil. La maison avait l'air vide. Je me souviens que j'espérais qu'il n'y aurait personne. La porte n'était pas fermée à clé, elle donnait dans le bureau de M. Clutter. On a attendu dans l'obscurité. On tendait l'oreille. Mais il n'y avait pas d'autre bruit que le vent. Ça faisait remuer les arbres et on pouvait entendre les feuilles. Alors Dick a allumé sa lampe de poche. On a vu le bureau. Le coffre-fort était censé être dans le mur juste derrière le bureau, mais on n'a pas réussi à le trouver. Alors on est sorti et on a traversé le salon. On est arrivé à un couloir et à une porte, et Dick, se souvenant du plan, a dit que c'était une chambre à coucher. Il a ouvert la porte. Un homme a dit « Chérie ?» Il venait de se réveiller, il a cligné des yeux, il a dit « C'est toi, chérie ?» Dick lui a demandé « Êtes-vous Monsieur Clutter ?» Il s'est dressé dans son lit, il m'a dit « Qui est là? Que voulez-vous » Dick lui a dit très poliment « On veut vous parler, monsieur, dans votre bureau, s'il vous plaît. » Et Monsieur Clutter est venu dans le bureau avec nous, pieds nus, avec rien d'autre qu'un pyjama, et on a fait de la lumière. Puis Dick a dit « Écoutez, monsieur, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous montrer où vous cachez le coffre-fort. » Mais M. Clutter a dit qu'il n'avait pas de coffre-fort. Et j'ai su tout de suite que c'était vrai. Il avait ce genre de visage. On se rendait simplement compte que tout ce qu'il vous disait était la vérité. Mais Dick a crié « Ne me racontez pas d'histoire, enfant de putain! Je sais foutument que vous avez un coffre-fort !» Et Dick lui a touché la poitrine de la pointe du couteau et il a dit « Montrez-nous où se trouve ce coffre-fort, sinon vous allez drôlement le regretter. » Mais M. Clutter a continué à nier.
À un moment donné, je me suis occupé du téléphone. J'ai arraché les fils et j'ai demandé à M. Clutter s'il y avait d'autres téléphones dans la maison. Il a dit oui, dans la cuisine. Alors je suis allé à la cuisine, puis en revenant, j'ai entendu un bruit. Un craquement au-dessus de ma tête. Je me suis arrêté au pied de l'escalier. Il faisait noir et j'ai pas osé me servir de lampe de poche. Mais je sentais qu'il y avait quelqu'un là, en haut de l'escalier. Dick comptait l'argent dans le porte-billet de M. Clutter. Il y avait environ 30 dollars. Il a dit « Vous avez plus d'argent que ça dans cette maison. Un homme riche comme vous. » M. Clutter a dit que c'était tout l'argent liquide qu'il avait et il a offert de nous signer un chèque. Dick a éclaté « Pour quelle sorte de cinglé nous prenez-vous » Et j'ai pensé que Dick était sur le point de le massacrer. Alors j'ai dit « Dick, écoute-moi. Il y a quelqu'un de réveillé là-haut. » M. Clutter nous a dit que les seules personnes se trouvant à l'étage étaient sa femme, son fils et sa fille. Dick voulait savoir si sa femme avait de l'argent. Et M. Clutter a dit que si elle en avait, ce serait très peu, quelques dollars. Et nous a demandé de ne pas la déranger parce qu'elle était malade depuis longtemps. Mais Dick a insisté pour monter là-haut. Et il a forcé M. Clutter à aller devant. Il n'y avait personne dans le couloir d'en haut. M. Clutter a montré du doigt les chambres où le garçon et la fille étaient censés dormir. Puis il a ouvert la porte de sa femme. Il a allumé une lampe de chevet et il lui a dit « T'en fais pas mon chou, n'aie pas peur. Ces hommes veulent seulement de l'argent. » L'instant qu'elle a ouvert les yeux, elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Mais chérie, j'ai pas d'argent. » Et il lui tenait la main en la caressant et il a dit « Écoute, ne pleure pas, mon chou. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. » Alors j'ai fait signe à Dick de venir dans le couloir. Je voulais parler de la situation et je lui ai dit « Ces gens disent la vérité. Celui qui a menti, c'est ton ami Floyd Wells. Il n'y a pas de coffre-fort. Alors foutons le camp d'ici. » Mais Dick avait trop honte pour se rendre à l'évidence. Il a dit qu'il ne le croirait pas avant qu'on ait fouillé toute la maison. Il a dit que la chose à faire était de les ligoter. Il était tellement excité qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. Ce qui l'excitait, c'était la gloire d'avoir tout le monde à sa merci. L'idée était d'attacher les parents et les gosses dans différentes parties de la maison. Et Dick a dit « Quand on aura trouvé le coffre-fort, on leur tranchera la gorge. On ne peut pas les descendre, ça ferait trop de bruit. » On est allé dans la chambre du garçon. Il était parfaitement éveillé. Dick lui a dit de se lever, mais il n'a pas bougé. Alors Dick lui a donné un coup de poing et l'a tiré hors du lit. On venait juste de l'enfermer dans la salle de bain quand la fille est apparue. Elle a dit « Grand Dieu, qu'est-ce que c'est, une blague ?» Je crois pas qu'elle ait pensé que c'était une blague, cependant. Pas après que Dick ait ouvert la porte de la salle de bain et qu'il l'y ait poussé. Je suis allé fouiller la chambre de la fille et j'ai trouvé une petite bourse. Il y avait $1 en argent dedans. Je l'ai laissé tomber par mes gardes et il a roulé sous un fauteuil. Il a fallu que je me mette à genoux. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé comme en dehors de moi, m'observant comme dans un film idiot. Ça m'a rendu malade. J'étais simplement dégoûté. Dick et tout son blabla sur le coffre-fort d'un type riche et voilà que je rampais sur le ventre pour voler $1 en argent à un enfant. $1. C'est après qu'on les a attachés. Monsieur Clutter d'abord, je l'ai conduit au sous-sol. Il m'a demandé de ne pas toucher à sa femme. Ensuite, j'ai emmené le garçon au sous-sol. Je lui ai lié les pieds à un bout du canapé et puis les mains. Et ensuite, j'ai fait remonter la corde que je lui ai enroulée autour du cou pour qu'il s'étouffe s'il se mettait à se débattre. Puis j'ai attaché Mrs. Clutter et sa fille dans leur chambre à coucher. Et on les a bâillonnés. J'ai coupé le sparadrap en longues bandes et Dick les a enroulés autour de la tête de Mrs. Clutter. Il lui a demandé « Pourquoi continuez-vous à pleurer? Personne ne vous fait de mal ?» Et il a éteint la lampe de chevet et il a dit « Bonne nuit, Mrs. Clutter, dormez bien. » Et on s'est rendu au sous-sol. Dick et moi, on a discuté de la situation. J'ai dit « Laisse-les en vie et ce ne sera pas une petite affaire, 10 ans au minimum. » Il avait le couteau en main, je le lui ai demandé et il me l'a donné. Et j'ai dit « D'accord, Dick, allons-y. » Mais je n'en avais pas l'intention. Alors j'ai passé le couteau à Dick et j'ai dit « Achève-le, ça te fera du bien. » Dick a essayé, mais M. Clutter avait la force de 10 hommes. Dick s'est affolé, il voulait foutre le camp, mais je pouvais pas laisser M. Clutter comme ça. Alors j'ai dit à Dick de tenir la lampe de poche, puis j'ai visé. Le bruit résonne dans les oreilles de Dewey. Un vacarme qui le rend pratiquement sourd au chuchotement rapide de la voix douce de Perry. Mais la voix se précipite, éjectant une fusillade de sons et d'images.
Dick cherchant la douille de la cartouche utilisée, se précipitant à toute vitesse, et la tête du petit Kenyon dans un cercle de lumière, le murmure de supplications étouffées, puis la chambre de Nancy, Nancy qui entend les bottes dans l'escalier de bois, le craquement des marches comme les deux tueurs montent vers elle, les yeux de Nancy, Nancy suivant du regard la lumière de la lampe de poche qui cherche la cible, et Dick qui raconte. Elle a dit « Oh non, je vous en prie, je vous en supplie, ne faites pas ça », et j'ai donné le fusil à Dick, je lui ai dit que je n'en pouvais plus, il a visé, et elle a tourné son visage contre le mur. Puis le couloir sombre et les assassins se précipitant vers la porte de Mrs. Clutter. Au cœur du silence de Dewey, il y a de la tristesse et une fatigue profonde. Les victimes avaient connu une terreur prolongée. Elles avaient souffert. Et Dewey ne pouvait oublier leur souffrance. Et il espérait voir Perry et son complice pendus dos à dos. Puis il demanda à Perry, « Tout compris, combien d'argent avez-vous trouvé chez les Clutter ?»« Entre 40 et 50 dollars. »
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
I'm going away, I'm going away, I'm going away, I'm going away. Cradle wants a baby, kitchen wants a pan, heart wants a certain kind of love if it can. The ocean wants a sailor, the gun wants a hand. Money wants a spender, road wants a man. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. And I'll turn my back on you. God wants a bird, the table wants a dinner, and the lips won't burn. The glass wants a wine, the fist wants a hurt, the clock wants a time, and the show wants a word. I turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. Turn my face to the highway. I'll turn my back on you. I'm going away. 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 Takes a stand. The walls of the prison mourn a solitary man. The window wants a curtain. The plow wants a lamp. Diamond ring wants a fit upon the finger of a hand. I turn my face to the highway. I turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my back on you. Go away, go away. I'm going away. I'm going away. I'm going.
On ne connaîtra jamais le déroulement exact du drame. Malgré tous les éléments de l'enquête et le travail accompli par Truman Capote, certains doutes persistent et la précision factuelle du romancier a toujours fait débat. Ce qui est certain, c'est que le procès fut à l'époque retentissant. Après des mois de procédure, l'heure du verdict a sonné. Et après la plaidoirie de la défense, qui a tout misé sur l'enfance difficile des deux accusés, demandant la perpétuité plutôt que la peine de mort, c'est au tour du procureur de convaincre les jurés. Celui qu'on nomme Green Pinky prend alors la parole et réveille l'assistance de sa voix grave et assurée. Quatre de vos concitoyens ont été massacrés comme des bêtes à l'abattoir. Et pour quelle raison ? Pas par vengeance ou par haine, mais pour de l'argent. De l'argent. Un froid calcul de tant d'onces d'argent contre tant d'onces de sang. Et à quel prix ces vies ont été achetées ? Pour $40 de butin. $10 la vie. Il se retourna brusquement et pointa un doigt qui oscilla entre Hickok et Smith. Ils sont venus armés d'un fusil et d'un poignard. Ils sont venus pour voler et pour tuer. Sa voix trembla, vacilla, disparut comme s'il était étranglé par l'intensité de son propre dégoût pour les accusés débonnaires qui mâchaient du chewing-gum. Se retournant vers le jury, il demanda d'une voix rauque : « Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire de ces hommes qui ligotent un homme, lui tranchent la gorge et lui font sauter la cervelle ? Leur donner la peine minimum ? Et ce n'est là qu'un des quatre chefs d'accusation. Il y a Kenyon Clutter, un jeune garçon avec toute la vie devant lui, attaché, assistant impuissant à la lutte de son père contre la mort. Et la jeune Nancy Clutter qui entend les coups de fusil et sait que son tour vient ensuite. Nancy qui implore qu'on la laisse en vie. Quelle agonie. Quelle indicible torture. Et il reste la mère. Ligoté et bâillonné, qui a dû écouter son mari et ses enfants chéris mourir l'un après l'autre. Écoutez jusqu'à ce que les tueurs, ces accusés qui comparaissent devant vous, entrent enfin dans sa chambre, lui braquent le rayon d'une lampe de poche dans les yeux et mettent d'un coup de feu le terme à l'existence d'une maisonnée tout entière. S'arrêtant un instant, Green tâta légèrement un furoncle sur sa nuque, un abcès mûr qui semblait, comme lui-même dans son courroux, sur le point d'éclater. « Alors, messieurs, qu'allez-vous faire ? Leur donner la peine minimum ? Les renvoyer au pénitencier, courir le risque de les voir s'évader ou être remis en liberté conditionnelle ? La prochaine fois qu'ils feront un massacre, ce sera peut-être votre famille. « Je vous le dis, » fit-il solennellement, enveloppant tous les membres du jury d'un regard qui les mettait au défi. « Quelques-uns de nos crimes énormes ne se produisent que parce qu'un jour, une bande de poltrons de jurés ont refusé de faire leur devoir. Maintenant, messieurs, je m'en remets à vous, à votre conscience. » Il se rassit. Et West lui dit à voix basse : « C'était magistral, monsieur. » Les délibérations du jury avaient duré 40 minutes. De nombreux spectateurs qui s'attendaient à une décision rapide n'avaient même pas quitté leur siège. Cependant, on dut aller chercher le juge Tate dans sa propriété où il est allé nourrir ses chevaux. La robe noire qu'il avait revêtue en vitesse ondoyait autour de lui lorsqu'il arriva enfin, mais ce fut avec une dignité et un calme impressionnant qu'il demanda : « Messieurs les jurés, avez-vous établi vos verdicts ?» Leur porte-parole répondit : « Oui, votre honneur. » Et l'huissier vint porter les verdicts cachetés au juge. Tate se mit à lire. « Premier chef, nous, membres du jury, déclarons l'accusé Richard Eugène Hickok coupable d'homicide volontaire, et le châtiment est la mort. » Puis trois autres condamnations pour Hickok et quatre pour Smith. « Et le châtiment est la mort. » Chaque fois qu'il arriva à cette phrase, Tate la prononça d'une voix sombre et caverneuse. Puis il renvoya le jury et les condamnés furent emmenés. À la porte, Smith dit à Hickok : « C'est pas des poltrons, ces jurés. » Et ils éclatèrent tous deux de rire.
À quoi ça sert tout ça en définitive ?
Eh bien, au bout du compte, quatre innocents et deux coupables assassinés. Trois familles brisées. On a imprimé et vendu un peu plus de journaux. Les politiciens feront un peu plus de beaux discours. La police et les commissions de grâce encaisseront un peu plus de reproches. On votera un peu plus de lois. Et tous les ponts pilates du pays s'en laveront les mains. Et ensuite,
Dans un mois, dans un an, la même chose recommencera.
Il se peut que ceci contribue à l'empêcher.
Ça n'a jamais rien empêché.
Et pour conclure, voici la toute fin du roman. Perry et Dick ont été condamnés à la pendaison. Après plusieurs années dans les couloirs de la mort, le jour de leur exécution est arrivé. Dans l'assistance, il y a des journalistes surtout, et l'inspecteur Dewey, qui a suivi toute l'affaire. Ces dernières pages sont effroyables et donnent au titre du roman un double sens. De sang froid, fait à la fois référence au crime perpétré par les deux condamnés, mais aussi à la manière dont la société exécute ces deux hommes dans la plus totale indifférence. Dewey les avait regardés mourir car il avait été parmi les quelques 20 témoins invités à la cérémonie. Il n'avait jamais assisté à une exécution. Et lorsqu'il pénétra dans l'entrepôt glacial après minuit, le décor le surprit. Il s'était attendu à un cadre d'une dignité appropriée, pas à cette caverne tristement illuminée. Mais l'échafaud en soi était assez imposant. Dewey fut également déconcerté par la conversation factice et désinvolte des autres témoins qui attendaient le début de ce que l'un d'entre eux appela les festivités. J'ai entendu dire qu'il voulait les laisser tirer à la courte paille pour savoir qui allait y passer le premier. T'as lu dans le journal de cet après-midi ce qu'ils ont commandé pour leur dernier repas? Crevettes, frites, pain à l'ail, glaces, fraises et crème fouettée. T'as entendu parler des yeux de Hickok? Il les a laissés à un oculiste. Aussitôt qu'ils vont le détacher, ce médecin va lui arracher les yeux et les planter dans la tête d'un autre type. Je peux pas dire que je voudrais être ce type-là. Je me sentirais tout drôle avec ces yeux-là dans la tête. La pluie subite vint frapper le toit élevé de l'entrepôt. Le bruit qui évoquait assez bien le rataplan des tambours d'un défilé annonça l'arrivée de Hickok. Accompagné de 6 gardiens et d'un aumônier qui murmurait des prières, il pénétra sur les lieux de sa mort, menottes aux mains et portant un hideux harnais de courroies de cuir qui lui fixait les bras au torse. Au pied de l'échafaud, le directeur lui donna lecture de l'ordre officiel d'exécution et après cette lecture, il demanda au condamné s'il avait une dernière déclaration à faire. Hickok fit un signe de la tête. Je veux simplement dire que je ne tiens rancune à personne. Vous m'envoyez dans un monde meilleur que celui-ci ne l'a jamais été. Puis, comme pour accentuer ce qu'il venait de dire, il échangea une poignée de main avec les 4 hommes principalement responsables de sa capture et de sa condamnation. Les agents du KBI, Church, Dunce, Nye et Dewey en personne. Heureux de vous voir, dit Hickok avec son sourire le plus séduisant. C'était comme s'il accueillait des invités à ses propres funérailles. Le bourreau toussa, et Hickok, poussé par un gardien, gravit les marches de l'échafaud. « Le Seigneur a donné, le Seigneur reprend, loué soit le nom du Seigneur », entonna l'aumônier, tandis que la corde était ajustée et qu'un léger bandeau noir était placé devant les yeux du prisonnier. La trappe s'ouvrit, et Hickok balança au bout de la corde devant tout le monde pendant une bonne 20aine de minutes, avant que le médecin de la prison ne dise enfin « Je déclare cet homme mort ». Puis, comme on le faisait entrer dans l'entrepôt, Smith reconnut son vieil ennemi, Dewey. Il cessa de mâcher un bout de chewing-gum qu'il avait dans la bouche. Il fit un sourire et un clin d'œil à l'intention de Dewey, désinvolte et malicieux. Mais après que le directeur de la prison lui eut demandé s'il avait quelque chose à dire, son expression devint sérieuse. Ses yeux sensibles contemplèrent gravement les visages qui l'entouraient, puis retombèrent sur ses propres mains entravées de menottes. « Je pense, » dit-il, « que c'est une chose épouvantable de mettre quelqu'un à mort de cette façon. Je ne crois pas à la peine capitale, ni moralement, ni légalement. J'avais peut-être quelque chose à apporter. Quelque chose. » Il perdit son assurance. La timidité troubla sa voix qui devint presque inaudible. « Ça n'aurait pas de sens de m'excuser pour ce que j'ai fait. Ce serait même déplacé. Mais je le fais. » « Je m'excuse. » Manche, corde, bandeau, Dewey ferma les yeux. Il les tint fermés jusqu'à ce qu'il entende le bruit sourd qui annonce un cou brisé par une corde.
Vous essayez dans votre livre d'être extrêmement impersonnel, et il semble que vous réussissiez tout à fait, et pourtant on ne peut pas s'empêcher de penser que vous avez certaines sympathies pour les assassins.
Well, there's a very good reason for that. Kindly remember that I never knew the family.
Eh bien, il y a une raison tout à fait naturelle pour ça, c'est que je n'ai jamais connu personnellement la famille, elle était morte. J'ai dû reconstruire la personnalité de cette famille et leurs actes d'après seulement ce que les autres personnes m'ont dit. Tandis que j'ai connu les deux assassins intimement pendant 5 années. Donc naturellement, je suis bien plus en rapport avec eux, car je connais d'eux chaque chose qu'il est possible pour un être humain de connaître sur un autre être humain.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Pascal Bénard a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Bonne journée et à demain.